Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième épisode de La Nuit des Divas, il est 22h30 sur Radio Campus Paris.
La Nuit des Divas, un lundi sur quatre à 22h30, sur Radio Campus Paris. La Nuit des Divas sur Radio Campus Paris.
Bienvenue dans La Nuit des Divas, l'émission sur la nouvelle génération des grandes chanteuses dans le monde arabe à partir des années 80. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode où on va tester un nouveau format. Normalement, on parle d'une artiste par mois. Pour ceux qui n'ont pas écouté les deux précédents épisodes, on avait parlé de Elisa et Hossol. Aujourd'hui, on a essayé de mettre en place un nouveau format axé sur la discussion avec une sorte de table ronde. On est donc quatre à participer aujourd'hui et on va former une discussion autour de nos rapports personnels à ces artistes féminines. Donc, je vous laisse vous présenter chacune de vos tours en quelques mots, votre intérêt pour ces musiques, votre parcours.
Quelqu'un veut commencer. Je me lance. Moi, c'est Morgane. Du coup, ma mère elle est marocaine, mon père est égyptien. Et du coup, j'ai écouté des musiques arabes toute ma vie. Enfin, j'ai plus écouté des musiques arabes chez moi que d'avoir été française. Actuellement, j'ai 22 ans, fraîchement 22 ans, et je fais des études en communication. Voilà.
Okay.
Moi, Marie-Jo, du coup, enfin Marie-José pour ceux qui ne me connaissent pas. La sœur d'Émilie, donc les mêmes parents, deux parents égyptiens immigrés en France il y a un petit moment. La musique arabe, c'est un peu toute ma vie, plus ou moins, mais à certaines périodes, donc ça a été par moments chaotique. Et personnellement, en études de sciences politiques et en service civique actuellement. Voilà.
Donc moi, c'est Sarah. Je suis métissée, donc ma mère est française, mon père est marocain, né en France. Donc moi, c'est mes grands-parents qui ont immigré en France. Donc voilà, moi je sors de 3 ans de prépa littéraire. Je suis actuellement en master 1 de géographie spécialisée dans les pays du Sud et développement durable. Et donc voilà, pour moi c'est un plaisir d'être là ici aujourd'hui et de parler de la musique arabe qui... malgré mon métissage, m'a bien bercé aussi, quoi.
Ok, bah super. Je pense qu'on peut un peu commencer par la base de la discussion. Donc, comment est-ce que chacune a été introduite par ses artistes ? Parce que je pense qu'il y a un véritable truc à creuser sur le plan tant familial avec la question de la transmission culturelle. Ou si c'est par intérêt personnel, d'où vient cette curiosité-là ?
Bah moi, je veux bien commencer pour cette question-là. Alors, premièrement, oui, il y a forcément une sorte d'héritage. Mais c'est vrai que moi, dans mon cas, c'est plus personnel. L'intérêt que j'ai porté à ces musiques est né durant mon adolescence. Forcément, ma grand-mère écoutait beaucoup d'Oum Kalthoum. Il y avait beaucoup de musique arabe chez moi. Enfin, même mon père, d'ailleurs. Mais bon, plus de la musique maghrébine et masculine. Pour mon père, mais c'est un vrai intérêt qui est né vers mes 16 ans et c'est une forme de réappropriation de ma culture en plus de ça. Donc moi je suis métissée, il y a toujours cette question de t'es quoi ? Est-ce que t'es française ? Est-ce que t'es marocaine ? Est-ce que t'es où ? Et cet intérêt là c'est se réapproprier ses origines. C'est aussi les connaître mieux, alors que je suis née en 2001 en France, ma mère est française, mon père est français d'origine marocaine, mais donc il y a eu beaucoup de variétés françaises, mais à la maison. Mais du coup, c'est une forme de réappropriation et surtout de connaissance de ce que je suis.
Non, je trouve ça hyper intéressant, mais tu t'es tournée vers quels artistes un peu quand t'as commencé à t'introduire à cet univers?
Moi, comme je dis, du côté de mon père, donc toutes les sœurs de ma grand-mère, c'est fan d'Oum Kalthoum. J'ai une tante qui s'appelle Kalthoum. C'était ça, mais moi, c'est vraiment... Moi, mon artiste, ma star, c'est Dalida à la base.
Ouais. Et en Dealer.
Fait, moi, c'est vraiment Dalida, mais C'est drôle parce que j'avais genre 5 ans et c'est ma grand-mère du côté de ma mère, donc française, okay, qui m'a offert le disque de Dalida. Oh,
mais oui, ça c'est toute l'ambiguïté de Dalida,
ouais,
justement.
Ouais, ah, carrément,
italienne, égyptienne, chantant français.
Ah ouais, ça c'était incroyable. Et c'était un genre de, enfin c'est un disque qui regroupait tous ces sons cultes où il y avait du coup des sons en italien, en arabe, en français. Et donc moi c'est Dalida, ma first. Et non, sinon ouais, beaucoup de Férouz, Warda.
Ok, donc plus génération classique quand même. Enfin, c'est par ça
pour
que...
Férouz, ouais.
Ouais.
Umkeltoum, ouais. Mais après...
Bah, Warda et Dalida, en vrai, ça reste ce que... En tout cas, moi, je considère, je sais pas, ouais, vous, comme la génération classique, tu vois. Enfin...
Ouais, donc ouais, en vrai,
ok.
Oui.
Donc, c'est vrai. Quelqu'un veut prendre le relais ?
Bah, alors, moi, en fait, je pense qu'il y a eu deux moments, et je te rejoins un peu là-dessus, parce qu'il y a eu un premier moment où, genre... Chez moi, on écoutait que des sons arabes. En fait, chez moi, anecdote, ma mère, en fait, elle faisait le ménage et elle mettait sur un lecteur CD, des CD, tu vois. On n'avait que des CD à l'époque. Ouais. Le CD de Nancy Rajam, je sais pas si vous voyez. Le fond, il est orange. Elle a les yeux bleus, là, écartés.
C'est les années 2000.
On l'a
les
saigné.
Années 2000, j'adore.
Années 2000. Ouais. Vraiment, années 2000 vibes, tu vois. Et quand j'étais jeune, bah, j'écoutais ça grâce à mes parents, tu vois. Mais j'avais pas ce truc-là un peu de... Ah, c'est... Enfin... C'était normal pour moi, tu vois, j'ai grandi avec des sons rebeux, même des sons que je connaissais pas trop, qui m'intéressaient pas. Et je pense qu'il y a un deuxième moment quand j'ai grandi, et j'ai eu un peu ce truc de reconquête de ma personne, de mes goûts, et aussi de ma culture, tu vois. Et je me suis dit, attends, mais c'est vraiment un banger. Non, mais tu sais, je me suis posée, et j'ai écouté des vieux sons, des sons genre, même à une 2000 très pop, genre Chérie, Nelissa, Nancy Rajam, ça c'est vraiment des meufs que j'ai beaucoup écoutées, mais même l'ancienne génération et tout, et je me suis dit, mais je suis vraiment fière de cet art qu'on a, et il faut le célébrer, il faut que je célèbre plus, parce que pour moi avant c'était juste normal. Ouais. Donc je pense qu'il y a eu deux temps, et je pense qu'en soi, en vrai de vrai, le deuxième temps que j'ai eu, qui était un temps de reconquête entre guillemets, je l'appelle comme ça, mais il était beaucoup plus fort pour moi, tu vois.
Comment ouais. Reconquête, ça a une connotation, moi ça renvoie un truc.
Je suis désolée, mais je me réapproprie les termes, oui, voilà. Ce terme là ne l'associons pas à qui nous savons.
C'est pas ici.
Là je parle de reconquête personnelle de ma personne, tu vois.
Ouais.
Non mais c'est juste un truc où vraiment là pour le coup je pense que depuis 5-6 ans je suis vraiment fière de mes origines, fière de l'art qu'on a et des chansons qu'on a, et je me dis mais en vrai c'est un truc de fou. Et je pense que quand j'étais petite juste j'avais c'était juste là, c'était pas un truc sur lequel je devais vraiment me poser et me dire ah c'est super stylé, tu vois.
Ouais.
Voilà.
Mais en vrai moi je comprends vraiment le truc des deux temps, mais la façon dont moi je l'ai vécu c'était deux temps très différents, c'est-à-dire que donc pareil nos parents fans de Abd el Halim, fans d'Om Kalsoum,
mais très masculin longueur, quand même.
Du côté du père c'était beaucoup. Très masculin,
c'était
mais du côté de la mère
non, oui.
Mais il y a c'est très enfin ségrégation au niveau du genre, on va dire, par rapport aux parents. Mais après il y avait aussi ce truc, donc les parents c'était génération classique, mais dès qu'on partait en Égypte on avait des cousines qui étaient jeunes, donc dans la vingtaine, qui nous ont introduites donc à la génération qu'on considère comme étant moderne, donc Nancy Ragom, Shirin, tout ça. Et c'est là dont on a développé, en tout cas, enfin moi je parle pour moi, mais je pense que MJ on se rejoint sur sur ce point en tout cas, un amour commun pour ce que c'était. Après moi le deuxième temps, enfin c'est plus en trois temps, le deuxième temps c'est j'ai grandi dans des espaces prédominants blancs où je sentais que ma culture elle était pas vraiment légitime d'être mise en avant
et célébrée aussi.
Exactement.
Elle est pas célébrée.
Même pas accueillie pour être célébrée,
ouais,
tu vois.
Réel.
C'est ça où au collège, j'ai arrêté d'écouter de la musique arabe et ces artistes là de moi-même.
Ouais.
Et j'ai renoué avec ça, donc comme tu dis, dans un truc de réappropriation. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme tu dis également, c'était des bangers, c'était des hits, quoi.
Désolée,
et tu te rends compte qu'on a des femmes de ouf. Et en fait, qu'on a grandi quand même avec des modèles féminins absolument
fou,
impressionnants.
À la langue, déjà incroyable. Enfin, l'arabe, c'est une langue poétique, mais même au-delà de ça, la prod, des fois, tire un son, je suis désolée.
Mais
la guitare électrique de Nancy Ragram, pitié. Bref, j'arrête là.
MJ, t'as quelque chose.
Moi, en fait, je vous rejoins toutes les trois, plus ou moins. Et je pense qu'il y a un dénominateur commun ici aussi. Un peu le même parcours qu'Émilie. Mais en fait, vers l'adolescence, un peu cette crise, je pense qu'on traverse toutes et tous. Et en fait, il y a eu cette honte qui est venue par rapport à tout ce qui était arabe, en fait. Mmh. Donc, tout ce qui touchait à mes origines. Forcément, la musique a été emportée avec, comme la langue.
Parce que la langue, ouais, j'allais dire, la langue.
La langue, moi, je refusais de parler quand ma mère me parlait arabe dans
la rue. Moi, je répondais en français.
Je lui disais, arrête, parle français et tout. Enfin, bref. Et donc, forcément, la musique a été oubliée aussi. Et oubliée, et surtout, en fait, rangée dans une boîte bien au fond, quoi. Elle n'était plus là. Et pareil, je pense, vers lycée, donc vers 16-17 ans, ce qui est quand même assez récent, je me suis dit, bah attends, je vais tous les ans en Égypte. À chaque fois, je passe un moment incroyable quand j'écoute de la musique égyptienne. J'y retrouve quelque chose que j'ai pas en France, en fait, dans ma vie de tous les jours. Et bah, pourquoi pas, en fait, pourquoi juste je réécoute pas ça, tout simplement, quand je reviens en France. Et donc, j'ai commencé à amener ça avec moi. Et puis avec Emilie, on a commencé forcément à se rejoindre. Et en fait, on a commencé à retrouver des sons qu'on écoutait quand on était enfant sur YouTube, par exemple.
C'est le meilleur truc, ça.
Et on était là, waouh. Enfin, c'est la symbolique est énorme pour nous. Et donc, oui, un peu parcours en plusieurs étapes aussi. Et, mais aujourd'hui, alors là, on est full on est musique fond. Arabe.
Exactement.
On est full femme
mais je pense que
du
moi,
monde arabe. Donc,
ouais, un des premiers morceaux qui m'a marqué dans cette phase justement de 16-17 ans, où tu te rends compte qu'en fait, t'as accès à une culture absolument passionnante, c'était Entaé de Nancy Rogram.
Oh là là.
J'ai fait une phase, une fixette sur ce son. Et on va l'écouter tout de suite.
Yes.
Kifaya alik tikrahna hara alik inta eh inta le dumu'i habibi
Vous êtes toujours dans la nuit des divas sur Radio Campus Paris. On vient d'écouter le hit absolu NTA de Nancy Hogram. On est toujours en présence de Marie-Jo, Morgane et Sarah. Et on vient de discuter de la question de la transmission culturelle et comment chacune a été introduite en fait, aux artistes qu'on évoque dans cette émission. Pour un peu continuer sur la lignée en fait, de la transmission culturelle, est-ce que... Ça, c'est vraiment une question que je me pose souvent par rapport à ces femmes-là et cette culture-là. C'est est-ce que vous vous êtes sentie légitime d'en parler et vous étiez dans un environnement où vous aviez des personnes à qui partager votre propre héritage culturel, en fait. Est-ce que ça intéressait vos amis, des choses comme ça, et à partir de quel âge? Parce que ça aussi, je trouve que ça relève d'une certaine maturité et d'un certain recul, en fait, quant à son histoire.
Bah, en fait, je pense que ça dépend. Moi, je pense que quand j'ai commencé à vraiment être à fond dans ces sons-là, je pense que c'est aussi un truc que j'ai voulu vivre personnellement. Et très, très intimement, tu vois. Et je le partageais parce qu'on me voyait, je sais pas, c'est trop bête, mais je le mettais sur les réseaux, j'en parlais. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu genre, j'en suis fière, j'écoute, je chante et tout. Et j'ai toujours eu des potes qui ont été toujours hyper ouvertes et aussi, milieu aussi multiculturel, pas forcément à prédominance blanche. Donc forcément, il y avait un truc déjà de beaucoup plus d'ouverture culturelle, tu vois. Et pas un truc un peu chelou de te regarder en mode, ah, c'est hyper exotique, c'est hyper différent et tout. Tu vois, c'est hyper gênant. Non, mais faut en parler aussi, tu vois, parce qu'il y a ce versant-là aussi qui peut être là. Moi, j'ai pas eu ça, mais je pense que ça va me plaire. Je pense que peut-être que j'ai pas assez de reconnaissance pour mon cercle qui a eu aucun jugement et voire été hyper ok avec ça. Enfin, c'était pas une question pour moi. Et il y avait un rapport qui était très très personnel à ça, qui fait que j'ai pas forcément eu le besoin d'en parler à des potes, de créer du lien par rapport à ça. Après, quand je rencontre une personne. maghrébine ou arabe et qu'on se voit avec un son d'Instagram qui passe et qu'on se regarde, c'est un truc qui est priceless, tu vois. Et ça crée aussi du lien, mais en fait c'est pas un truc que j'ai recherché, je pense.
Je vois. Moi forcément du coup la famille. Donc ça joue. Mais moi j'ai une copine, donc elle qui est d'origine juive algérienne du côté de son père, qui comme moi est fan totalement des musiques arabes et surtout du coup de Dalida, Oum Kalthoum, mais beaucoup de Nancy aussi. Et on en parlait beaucoup, quoi. On a une playlist où on se partageait sur Spotify nos sons et c'était génial. Et son père, en fait, fait de la musique, fait de la guitare. Et lui, pareil, tu vois, il chantait beaucoup de musique arabe. Enfin, il chante toujours, du coup. Des musiques arabes, beaucoup ma vie.
Ils jouent du oud ou en mode de la
guitare? Non, mais tu sais, eux, du coup, comme je te disais, ils sont juifs. Ouais. Du coup, beaucoup de... Comment il s'appelle, le chanteur Enrico Macias. Tu vois, beaucoup de... Ouais. Mais... Tu vois, il a la culture quand même où il passe les disques, où on parle de ça et tout autour de la table. Et donc, c'est sympa. Mais ouais, du coup, c'est cette copine-là en particulier que je vise. Puis après, il y a ma cousine. Ouais. Donc voilà. Parce que du coup, même histoire, elle aussi, elle est métissée du côté de son père. Enfin, sa mère est la sœur de mon père. Okay. Donc, elle est marocaine et espagnole. Et on a le même âge et ouais, on en parle beaucoup, quoi. Donc ça c'est sympa et ce qui est cool c'est le partage entre tes potes et toi de musique. Ah ouais, t'as écouté ça, ou quand en soirée on passe tel ou tel son, ça s'ambiance grave, et tu vois, enfin ouais, non, j'ai eu de la chance d'avoir des gens avec qui partager ça, quoi.
Ok. Mais je sais pas en fait si c'est une minorité ou une majorité, les personnes qui ont un peu la chance justement d'avoir un espace un peu safe et assez ouvert pour pouvoir discuter d'artistes dont, enfin, qu'on n'évoque pas en fait en France et dans les pays occidentaux, parce que moi c'était pas mon cas du tout. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait une place qu'on laissait à une culture autre que la culture vraiment française, autant sur le plan du ciné que de la musique. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a grandi dans des milieux prédominants blancs, et ça joue énormément en fait dans ton rapport aux autres quand tu vas venir parler de thématiques qui lient l'immigration, la musique non occidentale, etc. Mais après, j'ai l'impression que ça évolue vachement ces 2-3 dernières années. Et c'est pour ça que je parlais aussi d'une forme de maturité. C'est moi, ça devient de plus en plus important pour moi. Ça a une place immense dans ma vie. Et je veux les faire découvrir à mes amis qui n'y connaissent rien. Et quand ils font preuve, et justement, d'ouverture d'esprit, je trouve que c'est comme tu dis, priceless. Enfin, c'est un sentiment qui est hyper agréable. Mmh. Et après, avec l'expo qu'on a quand même eue à Lima en 2020, si je me trompe
pas. L'année dernière ?
Non, je crois que c'est...
2020.
Peu, ouais. Non, c'était 2021.
Ouais.
Non,
tu as raison.
C'est 2021, ouais. On a quand même eu l'expo sur les divas, les divas classiques. Et ça, j'ai l'impression que c'était un peu la première fois pour moi où je pouvais visiter un lieu culturel parisien où on parlait
de
ces artistes,
exactement.
Ouais. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial. Après, c'est focus sur la génération classique, mais c'est totalement compréhensible parce que tu as beaucoup plus d'archives, etc.
Je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la question de légitimité et même ce que tu disais au début, Marie-Jo, sur le fait d'enfermer dans une boîte justement toute cette culture. Moi, pourquoi justement j'ai ouvert cette boîte-là, au contraire, durant mon adolescence, c'est aussi parce que j'avais cette légitimité parce que je suis française aussi du côté de ma mère. Et du coup, j'ai toujours cette sécu, tu vois, où je me sentirais pas... je me sens pas victime de, tu vois, de racisme ou de jugement. Parce que j'ai toujours le côté, en fait, moi aussi, je suis comme vous, d'une certaine manière, mais j'ai aussi d'autres origines, tu vois ce que je veux dire? Donc ça me permet, enfin ça me donne de la confiance pour assumer ça, tu vois. J'avais pas ce côté, j'ai pas eu ce problème de rejet, tu vois, parce que j'ai eu cette chance de me sentir bien, mais en même temps, malheureusement, c'était aussi dû au fait que j'avais entre guillemets un privilège, tu vois. Du coup, c'est pour ça que quand tu parles de est-ce que c'est une minorité ou une majorité d'avoir ce cercle hyper bienveillant, non, clairement, je pense que j'ai une chance énorme que c'est une minorité. Mais après, c'est de la chance, t'as raison.
Autant en profiter, ma foi.
T'as raison. Mais en plus, moi aussi, la question de légitimité, ce que je trouve intéressant, c'est que là, j'y ai pensé pendant que vous parliez, mais il y a aussi beaucoup qui vient, je pense, de communautés qui sont sur le net, comptes Instagram, de gens qui sont dans cette même visée des ans d'immigrés, et d'en parler et de reconnecter avec leurs origines par les sons, par la langue, par des contenus sur leur histoire aussi, tu vois. Parce que parler vraiment de notre histoire, on n'en parle pas forcément. Et avoir des personnes sur le net, moi, je sais, ça m'a énormément aidé parce que on va se mentir, on est toujours sur notre téléphone, avec des comptes Instagram, TikTok, n'importe. Et moi, quand j'étais face à des contenus comme ça, c'était, je sais pas comment vous dire le sentiment, mais un peu tu souffles, t'es pas seul, tu vois, t'es pas seul. Alors, un rapport hyper dichotomique avec la langue, avec la culture, avec l'histoire, avec plein de choses. Avoir des rapports qui sont hyper, des fois contraires, tu vois, et t'arrives pas à te saisir toi-même et que d'autres gens soient dans le même cas que toi. Moi, je sais que c'est vraiment l'un des trucs où je me suis sentie légitime pour le coup. Et je me suis dit, je suis pas la seule. Et ça m'a donné encore plus d'armes, entre guillemets, et de confiance parce qu'on traverse plus ou moins tous les mêmes crises, tu vois. Du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé, je pense, aussi.
Je sais pas trop, moi, j'ai envie de rebondir sur plusieurs trucs, notamment. Quand tu parlais de majorité, minorité, pour moi, en fait, c'est dur d'y répondre dans ces termes-là. Parce où est-ce que t'as grandi, tout simplement. Je veux dire, t'as grandi dans le 3e arrondissement, t'as grandi à Villejuif, où il y a une grosse communauté égyptienne. En fait, il n'y a pas de... Tu peux pas quantifier ça, donc c'est purement de l'expérience. Et nous, en l'occurrence, voilà quoi. c'était ce que c'était, mais non, mais après, on va pas tout jeter non plus. Enfin bref. Oui, là, en fait, où je suis plus ou moins... Enfin, pour moi, en tout cas, pour mon expérience à moi, je suis plus ou moins d'accord avec toi, dans le sens où, moi, c'est resté très dans le cadre familial, enfin, dans un cadre très intime, qui n'a pas dépassé ces limites-là. Quand je parle de musique arabe, c'est avec Émilie. Il n'y a personne d'autre. Parce que aussi, j'ai pas eu de copine arabe, en fait, du fait de mon parcours. C'est juste une coïncidence, pour le coup. Et moi, en fait, c'est vraiment... Ça s'est délimité à ce cadre familial. C'est jamais vraiment sorti de là. Forcément, c'est extrapolé quand on va en Égypte pour l'été. Mais en
France, le truc de la romantisation par la musique, où t'es en Égypte, et
voilà,
tu te dis,
c'est un cadre,
j'ai 10 fois plus envie de les écouter, que ça accompagne mon quotidien.
Ouais. Bien sûr, et puis tu peux en parler. Là, pour le coup, pour moi, les personnes avec qui j'en parle, quand j'en parle, c'est vraiment... En fait, c'est toi. Voilà. Il n'y a personne, je rigole.
Mais dans le cadre... dis-moi.
Vas-y.
Non, moi, dans le cadre familial, je sais qu'il y a une figure qui m'a beaucoup marquée quant à ces artistes-là, et surtout mon introduction à la reine qui est Fayrouz. pour le coup, du côté de nos parents, avec MJ, on a surtout grandi avec Oum Kalsoum en tant que figure féminine. Et c'est ma tante plus tard qui m'a vraiment introduit à, en fait, à l'amour qu'elle avait pour Fayrouz. Donc là, je lui fais une dédicace totale. Et un des sons que j'ai adoré d'elle en premier, c'était Shot to Scandaria. Et c'était la première fois qu'on était allé à Alexandrie avec notre famille. C'était en 2018 et j'ai écouté ce son. Et pour moi, c'était la révélation de Fayrouz. C'était magnifique.
La nuit des divas, un lundi sur 4 à 22h30 sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours dans la nuit des divas sur Radio Campus Paris. On vient d'écouter Shot to Scandaria de Fayrouz et on est toujours présentes toutes les quatre pour parler de nos rapports à la nouvelle génération des chanteuses dans le monde arabe. Un truc sur lequel je pense que ce serait intéressant de rebondir, c'est toujours sur la thématique de la transmission, en fait, qui va venir dépasser le cadre familial, donc tout ce qui est lié à l'héritage culturel, etc. C'est le rôle des réseaux sociaux maintenant dans justement cette transmission culturelle, parce que comme Morgane le disait de façon très pertinente, ça fait... moi, je lis beaucoup ça, surtout... je fais surtout le lien, oui, avec TikTok, parce que... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'explosion de personnes en fait qui viennent mettre en avant leur culture, que ce soit la culture arabe ou autre d'ailleurs, et qui viennent. Enfin, par exemple, enfin, il y a eu des tendances sur des morceaux de Nancy Ragham, il y a eu des tendances sur des sons égyptiens complètement absurdes de Mohamed Ramadan, et je trouve ça juste excellent en fait le fait que sur une application comme ça. Après, il y a la question de l'algorithme, évidemment. Mais qu'on ait accès à ces artistes-là et que plein de gens qui n'ont rien à voir avec la culture arabe puissent les découvrir aussi. Quoi.
C'est, moi, ce que je kiffe aussi, c'est ce truc de... Tu scrolls, comme t'as dit sur TikTok, t'as les sons, que ce soit de l'Instagram, de Abdelhamid Hafez aussi, j'ai eu ça dans ma voix. J'ai mis le truc, comme t'as dit, hyper récent. Et moi, ce que j'adore, c'est de me dire que, tu sais, il y a des gens qui sont non arabes et qui vont kiffer, tu vois. Ouais. Et t'es là en mode, ouais, vous voyez comment c'est cool,
quand même. C'est drôle.
Tu vois, ouais. Et t'es là, t'es en mode, parce que c'est pas que. Enfin, les prods sont bonnes, le son est bon, la langue et tout, il y a des trucs. Enfin, je sais que j'ai des potes, par exemple, qui sont pas arabes et me disent, mais Morgan, c'est des bangers.
Ouais, c'est un hit, ouais,
c'est
pareil.
C'est des hits.
Pareil.
Genre, moi, j'en suis. Il y a un côté un peu genre. Fierté à deux balles, mais fierté un peu, tu vois. Ou d'un peu là, ouais, tu vois, ce que j'écoute, c'est stylé, tu vois. Donc là, moi, sur ce versant-là, je suis hyper contente. Et aussi, un autre truc que j'ajouterais qui est super drôle, c'est qu'on parlait de la transmission et du fait qu'il y a le cadre intime et les sons dont on parle avec nos proches et tout. Moi, je sais que, notamment grâce à TikTok, il y a des sons qui sont relativement récents, dont j'ai parlé avec mes parents.
Comme quoi
Il y a un son qui tourne là depuis un moment, c'est un son qui est issu d'un film qui s'appelle Talat Tadaket.
Ah, mais oui.
Voilà. Et moi, je connaissais pas ce son, tu vois. Et c'est relativement récent.
C'est excellent.
Et du coup, moi, un truc drôle, c'est que mon père m'avait fait entendre, mais j'avais oublié. Je lui refais écouter un autre jour. Et il me dit, mais oui, mais je te l'ai fait écouter et tout. Il est trop bien ce son, tu vois. On commence à en parler. Et tu sais, il y a un côté un peu genre. J'ai pas eu des parents qui étaient vraiment en mode fierté culturelle, écoute tes sons, sois vers de là où tu viens et tout. J'ai pas eu, moi, ce discours grande sens. C'était tellement normal. Enfin, on était juste ce qu'on était, tu vois. Il n'y avait pas ce truc-là un peu de revendication. Et je pense que mes parents aussi, quand ils arrivaient en France, il n'y avait pas ce débat-là de revendication. C'était plus de l'intégration en soi, tu vois.
Ouais, exactement.
Et du coup, moi, maintenant, mais je vois quand même, quand je parle de ces sons qui sont relativement restreints avec mes parents, il y a un petit sourire qui s'esquisse, tu vois. Il y a un truc un peu. Ils sont contents. On en rigole. Oui. Ils disent, avec un ton un peu bizarre, mais tu connais ça, toi? Comment tu connais ça? Et moi, je suis un peu là en mode fière, tu vois.
Ouais.
Et on en parle. Et je me dis, je peux avoir des discussions d'adulte à adulte où moi, je suis. Pas sur le même pied que mes parents, faut pas abuser, parce que voilà, quand même, j'ai pas la même culture qu'eux, et bref. Mais moi, ça me relégitimise aussi au sein de ma famille.
Ouais.
Et grâce à TikTok, quand même, je trouve que c'était un truc quand même pas fou, tu vois. D'où, pour moi, le numérique a eu un gros effet sur moi, tu vois.
Ouais, mais c'est l'esprit aussi de communauté, en fait.
C'est que
tu te lis à des personnes qui sont pas du tout qu'en France, qui viennent un peu de partout, mais y a ça qui les rejoint. Et moi, je trouve que c'est un truc qui est hyper poétique et très propre à l'art, en fait. C'est... Le pouvoir que ça a de venir relier des personnes radicalement différentes. Exactement.
Ouais.
Moi, je trouve ça magnifique. Mais un son où ça m'a vraiment fait mourir de rire de voir ça sur TikTok, et notre petite sœur avec Marie-Jo, elle avait adoré, c'est « Est-ce que tu te souviens ?» Je sais que tu l'as mis dans la playlist, Morgane.
Ouais.
Je sais pas comment le prononcer, j'ai oublié, mais c'est les Baderikeda. Les Baderikeda de Ruby.
Oh, banger.
Ruby qui a pas, je trouve, été une figure... Enfin, moi, je l'associe pas du tout à la position de diva.
Moi non plus.
Mais
moi
c'est
non plus.
Un peu une bonne chanteuse pop égyptienne. Et ce son est à mourir de rire. Et je pense que c'est ce qu'on va mettre maintenant.
We'll be right back.
écouter Les Baderikeda de Ruby en lien avec la question de l'impact des réseaux sociaux et notamment TikTok sur la transmission de ces musiques à des personnes pas forcément liées à la culture arabe. Et je pense que ce qui est intéressant d'aborder maintenant et en lien avec ça, c'est la représentation en fait. Enfin, qu'est-ce que c'est avoir des modèles féminins de femmes non occidentales et spécifiquement maghrébines ou arabes? Qu'est-ce que ça a fait? Quel impact ça a eu en fait sur notre construction personnelle? Parce qu'on est quand même dans un pays où il y a certains critères de beauté et... Enfin, en tout cas, moi, je n'y correspond pas, tu vois.
Moi non plus, ma chérie.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait de s'être senti représentée ou non, d'ailleurs, parce qu'il y en a certaines, dont Nancy Reagan, qui...
Ouais, ce que je veux dire.
Voilà, c'est... qui correspond totalement aux critères de beauté occidentaux. Mais donc, oui, chacune, qu'est-ce que ça a signifié pour vous?
Moi, honnêtement, je ne me sens pas représentée aujourd'hui. Dans moi, j'adore, hein, mais si j'ai une critique à apporter, ce serait là-dessus. En fait, je me sens vraiment pas représentée. Si on parle purement de critères physiques, de représentation du corps féminin dans le monde arabe, moi, je m'y retrouve pas. En vrai, c'est un monde qui est encore extrêmement compliqué. Et les femmes, j'imagine même pas la pression que subissent les femmes, les chanteuses du monde arabe. En fait, je suppose évidemment. Donc, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui a énormément jouer, que ce soit dans mon rapport à la musique ou dans ma construction personnelle, parce que j'y trouve pas mon compte, tout simplement, et je sais qu'il y a pas eu d'évolution depuis, j'ai 22 ans, j'ai pas vu de grandes différences de représentation entre ce qu'on écoutait quand on était enfant et ce qu'on écoute aujourd'hui. Quand tu parlais tout à l'heure, Morgane, des pochettes d'albums et tout, oui, évidemment, le style a changé, mais le fond reste le même en soi. Le fond, c'est toujours une femme plus ou moins sexualisée, plus ou moins objectifiée. Évidemment, ça varie, hein, je fais une généralité là. Mais je sais pas, moi je suis encore très, très perplexe et mitigée vis-à-vis de ça. Et je n'ai pas envie de dire que waouh, ça a changé ma vie.
Ouais.
Honnêtement, ça ne l'a pas.
Et tu pourrais totalement. Enfin, je suis totalement d'accord. Moi, je suis sur la même lignée, pardon, que Marie-Jo là-dessus. Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai jamais eu ce truc de. Je vois. Même la nouvelle génération, l'ancienne génération, limite l'ancienne génération plus.
Ouais.
Tu vois,
c'est exactement ce que j'allais dire.
Tu vois ce que je veux dire? C'est que Warda ou des femmes comme Om Kulthum et tout, il y avait ce truc-là, pas forcément sexualisé. Là, actuellement, l'industrie musicale arabe, elle est quand même vachement basée sur du physique, de la chirurgie esthétique.
Mais elles se sont toutes fait refaire. Tu vois à quoi ressemblent Elisa et Nancy Reagan maintenant, moi, je trouve ça hyper frappant, en fait.
Mais
justement, totalement. L'évolution de leur cover d'album, tu vois que maintenant, Elisa, pour le coup, elle est vraiment défigurée, en fait. Et je trouve ça hyper malheureux, le fait qu'elles-mêmes, alors qu'elles sont dans une position de privilège financier et de position très élevée, on va dire, dans la société, c'est assez large comme terme, mais bon... qu'elle-même, en fait, est à subir ça, parce qu'en vrai, moi, je trouve ça quand même hyper violent, tu vois, pour des femmes issues de pays arabes, de quand même avoir la nécessité de correspondre aux critères de beauté occidentaux, avec le petit nez en trompette, les yeux bleus, la peau toujours éclaircie.
Ouais.
Enfin, je sais qu'en Égypte, par exemple,
même
Marie-Jo,
en Maroc aussi. Hein.
Voilà, t'as un truc purement, vraiment et profondément raciste par rapport à la couleur de ta peau. Donc, plus t'as la peau claire, mieux c'est, clairement.
Ouais, bah oui,
donc, ouais, je trouve ça hyper malheureux que les artistes tombent dans ce truc-là, mais en même temps, c'est totalement compréhensible et tu peux pas
c'est l'industrie aussi, l'industrie est comme ça.
Ouais.
Tu pourrais autant aller voir l'industrie américaine et dire la même chose. Enfin, et dire il y a une chirurgie esthétique, une industrie qui est hyper grande et tout, juste que dans le monde arabe c'est la même chose. Moi je me suis pas sentie représentée, c'est des trucs trop bêtes. Est-ce que t'as vu une chanteuse avec les cheveux harash qui vient et qui tu vois ce que je veux dire?
C'est pour ça que l'ancienne génération je suis grave d'accord, moi je m'identifie beaucoup plus à elle. Je pense que la seule exception pour moi en tant que, et c'est peut-être une des seules femmes auxquelles j'ai pu m'identifier autant dans la conception de ses relations, de ses émotions et tout, c'était Shirin Abdelwahab. Parce que, c'est con, mais elle a la peau mate.
Elle a subi
beaucoup, justement, par rapport au fait que ce ne soit pas une personne à la peau claire. En tant qu'égyptienne, je me souviens, dans ses clips des années 2000, elle avait les cheveux bouclés, comme nous, on a les cheveux bouclés. Que même là, elle s'est rasée les cheveux, tu vois. excuse-moi, j'ai jamais vu de femme dans la rue en Égypte avec les cheveux rasés. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle sort un peu du lot dans le sens de la représentation, justement. Est-ce que ça vous dirait qu'on écoute un de ses morceaux maintenant? Moi, c'est un des morceaux d'elle qui m'a le plus frappé quand j'ai découvert. C'est Ma chère de Shrine.
On
vient d'écouter la magnifique chanson de Shrin qui s'appelle Ma chère, c'est-à-dire émotion, sentiment, ouais, en français. On est toujours dans la nuit des divas sur Radio Campus Paris et on a autour de cette table Morgane, Marie-Jo et Sarah. Et on continue notre discussion par rapport au lien qu'on a construit face à ces artistes féminines. Et là, on venait de parler de la question de la représentation. Clairement, ce qui est ressorti, c'est qu'aucune d'entre nous ne se sentait vraiment représentée. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à ça ?
Comme je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure. Clairement, comme Marie-Jo, il y a... Après, je ne me suis pas posé la question en soi. Tu vois. Moi, je sors... Enfin, j'écoute la musique et j'en profite et c'est tout, tu vois. J'essaie pas de me poser énormément de questions autour de tout ça. Après, en termes d'identité, forcément, ouais, ça donne un peu de confiance. T'es représentée parce que elles sont arabes, elles chantent en arabe. Mm-hmm. En plus, elles ont une attitude, tu vois, c'est des divas. Et là, je vise plus l'ancienne génération, justement. Et c'est là où vous en parliez, où vous parlez de, justement, la différence entre les deux et le physique, etc. C'est clair qu'il y a un côté beaucoup plus sacré de l'ancienne génération, où c'est une, tu vois, c'est très c'est de la prestance, c'est des vraies divas, c'est des reines, tu vois, un peu. Et c'est des petits exemples par rapport à l'attitude, tu vois, en termes d'exemplarité. Pour l'identité, je m'arrêterai juste à là. Mais c'est vrai que globalement, c'est pas...
Oui, quant au rapport physique, moi, je suis totalement d'accord. Ouais, c'est des pays qui sont encore trop dans un idéal de l'Occident. Mais par rapport à la représentation où on exclut l'aspect physique, moi, je suis assez d'accord pour le coup. Moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois. Je sais pas, de regarder les clips de ces artistes-là, autant génération classique que moderne, même si, pour le coup, là, au niveau des clips, il n'y a rien à voir. Niveau comparaison, c'est un fossé. Pour la plupart, même dans la génération classique, c'est pas forcément des clips, c'est plus des représentations en live, tu vois, en Meuk Alsoum notamment. Mais oui, moi, c'était plus ce truc de, comme tu dis, de les entendre chanter en arabe, des émotions auxquelles tu pouvais t'identifier, et les écouter, vraiment, moi, je trouve que c'est ça qui change tout. Le sens des mots, c'est dans la langue arabe, tu vois. T'es un peu dans ta bulle, et tu sors de tout ce que tu lis, et tu écoutes de français ou d'anglais ou autre, et t'es vraiment dans ton propre lien à la langue arabe où tu vas t'identifier à des personnes qui, en fait, te ressemblent plus sur cet aspect-là, en fait.
Et puis, elles te donnent une force, tu vois,
totalement,
par leur voix que tu trouves nulle part ailleurs.
Ouais,
une énergie de dingue. Et là, encore une fois, c'est l'ancienne génération que je vise en particulier. Enfin, c'est une prestance, c'est une attitude, c'est un mindset, en gros, tu vois.
Ouais.
Et vraiment, enfin, une énergie, tu t'es gonflé quoi, à bloc quand t'écoutes ça après ça, tu vois.
Ouais,
tu vois,
je suis totalement d'accord.
Donc, c'est pas une question d'identité en soi, tu vois.
Ouais.
Mais c'est un bon réconfort et c'est vraiment... Ça te donne de la force, quoi, tout simplement.
Et je pense que c'est pour ça que ça... Enfin, pour la plupart d'entre nous, si j'ai bien compris, on a surtout... était très attachée à ces artistes-là au moment de l'adolescence. Parce que c'est le moment charnière où
on se construit, tu vois.
Et où t'as besoin de te sentir réconfortée. C'est toujours le truc de l'identification, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça nous suit vraiment par rapport à ces artistes-là.
Et surtout, tu parles d'un truc, je rebondis dessus assez rapidement, quand tu parles de t'es dans ton truc, dans ta bulle, dans ta langue. Et ça, c'est un truc qui est hyper intéressant parce que justement, moi, dans ma famille, je parle d'Alija, donc le dialecte marocain, et un peu d'égyptien, beaucoup moins, parce que je parlais beaucoup plus avec ma mère qui était chez moi et tout, et du coup, on parlait beaucoup plus en d'Alija. Et j'avais le truc égyptien, mais déjà, je voulais bien parler. J'étais un peu shame par rapport à la langue aussi, tu vois, quand tu vas voir ta famille et tout. On se fout un peu toi, des fois, quand tu parles mal, tu vois.
Alors, je tiens à dire qu'on se fout encore de ma gueule ce jour. Excusez-moi, moi, je considère que je parle bien arabe. Je suis peut-être un peu dyslexique dans cette langue.
C'est très
probable. Mais je me fais bully tous les étés, bref.
Après, je tiens à dire que c'est un truc de fou de maîtriser autant de langues que nous.
Voilà,
je sais.
Voilà, excusez-nous.
Je sais pas si on peut parler de maîtriser Kébili.
Bref, on va fermer la parenthèse parce qu'on n'est pas là pour ça. Non, non, non.
Non, mais ouais, du coup, c'est que ces sons-là m'ont permis de vraiment me mettre dans une bulle qui est une bulle aussi de langue et de même, tu sais, quand tu penses dans une langue, tu vois ce que je veux dire des fois,
bah oui.
Y a des mots qui sortent qui sont en arabe, qui sont pas en français, qui sont pas en anglais, qui sont en arabe, et des fois des concepts qui sont dans ma tête qui sont en arabe. Et je pense que avoir eu une familiarité quand j'étais plus ou moins jeune avec, bah là, c'est sur les sons, ça peut être aussi des films, ça peut être bah, beaucoup de mes parents, on va pas se mentir, mais il y a eu un truc de langue qui m'a vraiment beaucoup fait de bien et qui m'a permis de mettre aussi dans un truc un peu imperceptible qui est vraiment lié à ma culture, lié à ma langue, et je me suis vraiment mise fully dedans. Et c'est un truc qui m'a beaucoup aidée, et notamment avec la nouvelle génération, parce que l'ancienne génération, c'est quand même un langage, un vocabulaire qui est quand même hyper travaillé, assez compliqué, qui...
Moi, très soutenu, ouais.
Très soutenu, voilà, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a un truc aussi entre l'ancienne et la nouvelle génération, qui, je sais qu'il y a une acception de l'ancienne génération en mode c'est des divas, c'est des femmes incroyables et tout, je suis totalement d'accord. Moi, vous prêchez chez une vente, enfin, moi, c'est bon, tu vois. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus avoir un rapport hyper intellectualisant ou hyper en mode de noblesse de l'ancienne génération et oublier ce que des meufs d'année 2000 ont réussi à bring to the table, tu vois.
Ouais, mais je trouve qu'une des figures, en fait, qu'on oublie un petit peu parmi les divas classiques arabe, et qui, je trouve, en fait, enfin, parce qu'elle, c'était notamment, enfin, et principalement une actrice, c'est Sabah, je pense, oui. De qui je parle. Je trouve qu'il y a ce truc beaucoup moins qu'on a, par exemple, avec Om Kalsoum, vraiment un truc, enfin, presque prestigieux, tu vois. Cette femme, c'est une icône absolue, et je pense que c'est pour ça que c'est une des artistes du monde arabe sur qui on parle autant et qui a eu une grande place, justement, à l'exposition à l'Institut du monde arabe. Ouais. Du monde arabe, pardon, dont on a parlé. Et je trouve que Sabah, c'est un peu différent. C'est une dynamique différente. C'est un langage qui, là, pour le coup, n'est pas soutenu. Et je trouve que bah, c'est une petite pépite, en fait, parmi ces femmes. Et ce serait sympa d'écouter son morceau Yana Yana tout de suite, je pense.
Thank you. حبيبك يا حبيبي ولا خايف حب ياخدك بحر تغرق فيه لوحدك لا ده انا معاك يا حبيبي ولا اقولك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ايه ذنبك بحبك هو بعد الحب ولا قولك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ايه ذنبك بحبك هو بعد الحب ذنب ولا شنو اموت انا
La nuit des divas un lundi sur quatre à 22h30 sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours dans la nuit des divas sur Radio Campus Paris. On vient d'écouter Yana Yana de Sobor et on est toujours en présence de quatre super filles pour continuer notre discussion sur la nouvelle génération des grandes chanteuses dans le monde arabe à partir des années 80. Donc là, on venait d'aborder un peu une sorte de comparaison entre la génération classique des divas, donc avant les années 80, Werda, Oum Kalsoum, Fayrouz, etc., et les comparer en fait avec des artistes qui sont plus liés dans le temps à nous, puisque c'est la génération 80, 90, 2000. Et est-ce que vous voyez certains points de convergence entre ces femmes-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un héritage en fait? Par exemple, moi j'en avais pas mal parlé avec Ossol et Elis au niveau des prestations en live, à quel point la barre avait été placée très très haut. Et donc il y avait quand même certaines attentes. Enfin, moi j'ai l'impression que dans le monde arabe, une femme qui n'est pas capable de chanter aussi bien en live qu'en studio, ça fait un peu tâche. Parce que, moi je lis ça justement à la génération classique qui était absolument phénoménale sur ce plan-là. Et pour moi c'est un point de convergence, mais après il y a beaucoup plus, je pense, de...
Je pense qu'il y avait un versant dans la nouvelle génération qui est un truc très pop culture, tu vois.
Oui.
Faire des sons qui sont. Aucun Slender à aucune de ces grandes femmes de la nouvelle génération, mais t'es des One Hit Wonder, tu vois, ou des choses genre en mode. Il y a des hits qui ont hyper bien marché parce que c'était hyper entertainant. Enfin, c'est la musique qui était entertaining, tu vois, et pas forcément avec la même poésie ou les mêmes revendications que par exemple Warda, Fellows ou Mkhultum, tu vois. Donc, moi, je me dis, elle n'avait pas forcément les... Non, je ne vais pas dire parce qu'il y en a qui ont été vachement engagés, je ne vais pas dire ça, mais moi, je vois une vraie différence, mais je sais que, vu que j'ai beaucoup évolué avec la nouvelle génération, j'ai ce truc-là de... Ça m'a beaucoup touchée, c'était des trucs hyper entêtants, qui parlaient des trucs très actuels, avec aussi des clips et une imagerie qui était quand même hyper drôle ou hyper différente pour l'époque. Enfin, moi, quand je voyais des clips de Instagram de Aïfa Wahbi et tout, j'étais là, j'étais en mode, mais ça c'était hyper pop, hyper coloré, ça dansait, ça avait un truc beaucoup plus entertainment, vraiment purement, enfin dans le sens, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire,
populaire mariage, moi je l'associe totalement aux musiques de mariage.
Exactement.
Enfin, moi peut-être, excepté un ou deux sons de la génération classique, au mariage qu'on a fait toute notre enfance avec Marie-Jo, c'était pas Ommo Kalsoum ou Fayrouz qu'on c'est écoutait. Hein. Bah non, c'était Nancy Rockham, c'était Elis, ouais. Amre Diab. Bon, là, c'est des artistes masculins, donc c'est pas la thématique. mais il y a toujours de la place pour Amre Diab, je tiens à dire. mais ouais, enfin, c'est des hits hyper dansants.
Tu vois, et t'as un rap
hyper festif.
Totalement. Ouais, et t'as un rapport, du coup, qui est beaucoup plus actuel quand tu connais ces sons-là et tout, et que vraiment t'es dedans. T'as un rapport en tant que descendant de ces cultures-là, de cette culture-là, un rapport beaucoup plus actuel que des trucs un peu où t'as une vision limite d'historicien ou de musicologue quand t'écoutes un peu d'autres cultures. Enfin, on a tous eu un peu ce regard-là, tu vois. Ce truc est hyper distant et limite. Je les connais pas, ils sont tellement loin, c'est tellement une génération différente et tout. T'arrives pas à trouver forcément ces points d'accroche dès le début quand tu commences par ces artistes-là. Moi, quand j'ai commencé par cette là avec mes parents, c'est pas elles qui ont forcément fait que, à part Wanda où vraiment j'ai une grosse attache avec elles, mais qui ont fait vraiment où je me suis dit, ah ouais, c'est un truc de ouf, j'adore les sons, j'écoute ça dans ma playlist et tout, tu vois. J'ai compris après, en grandissant, un côté poétique, j'avais un regard qui était beaucoup plus mature. T'es jeune, t'as pas forcément envie de te positionner comme une historicienne ou une musicologue, tu vois.
Ouais, mais tu vois, pour moi, cette nouvelle génération-là aussi, elle peut se permettre de faire dans du divertissement.
Ouais.
Parce que.
Oui, bien sûr. Ouais.
Parce que, tu vois. Enfin, quand tu regardes un peu la biographie d'Ommo Kalsoum, que je connais mieux que les autres, donc je vais pas parler des autres. Au tout début, quand elle voulait chanter, quand elle était très jeune et que son papa notamment a découvert sa voix, elle a dû quand même s'habiller et se déguiser en homme.
Mais c'est parce qu'elle prenait des cours de chant dans une mosquée parce que son père était imam, donc c'est aussi lié à la question de la religion.
Oui, mais exactement. Mais parce que, enfin, forcément, la religion va toujours rentrer en compte. Enfin. Et puis même, elle a continué aussi pendant un moment quand même à rester à se montrer publiquement en tant qu'homme. Évidemment.
En même temps, c'est un peu compliqué.
Au bout d'un moment, il y a une couille, quoi. Pardon, du mot. oui, enfin, je veux dire, c'est parce qu'elles ont réussi à braver mais tellement de choses. Elles ont réussi, en fait, à ouvrir la porte aux femmes. Et ça, c'est un truc qui est frappant pour moi. Mm-hmm. Elles ont réussi à s'imposer, elles ont réussi à montrer que les femmes peuvent chanter, les femmes peuvent avoir une présence sur scène, et les femmes doivent. Ouais. Genre, c'est pas elles peuvent, c'est qu'elles doivent. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, toutes les femmes dont on parle, les femmes plus récentes, elles peuvent. Parce qu'elles n'ont plus à démontrer, elles n'ont plus à lutter pour être dans le milieu. Si, évidemment que si, on s'entend.
Mais donc sous des formes différentes, sous des formes différentes. Elles ont une place qui leur est réservée maintenant.
C'est ça. Leur place, enfin moi en tout cas, j'estime que leur place n'est plus remise en question. Aujourd'hui, on va pas dire t'es une femme, pourquoi tu chantes? Non, c'est totalement. T'es une femme, tu peux chanter, il y a pas de souci. On l'a accepté, on l'a fait, et maintenant on peut danser sur ce que tu chantes.
Ouais. Non mais je suis d'accord.
C'est pour ça aussi. Enfin, tu vois, je pense que ça a été très différent aussi pour la première génération. Enfin, la génération classique entre guillemets, parce qu'en fait vu qu'elles ont dû s'imposer, elles ont dû aussi forcément s'adapter aux codes qui étaient en place. Les codes qui étaient en place, c'était une certaine pudeur vestimentaire, une certaine pudeur aussi des mots, et donc forcément elles pouvaient,
après la plupart c'était pas elles qui écrivaient leurs textes, tu vois, c'était justement des poètes.
Il y avait vraiment des gens, mais le fossé aussi
entre classique et moderne, toujours entre guillemets, c'est le fait que la génération classique c'était des poètes en grande majorité qui écrivaient leurs textes, et ça évidemment ça change tout dans le rapport aux mots, et évidemment c'est beaucoup moins le truc que tu vas écouter quand tu veux aller faire la fête ou je ne sais quoi. C'est un rapport plus profond, mais je pense que moi je trouve ça normal que ces femmes elles soient un peu sacralisées. Moi je trouve ça normal, on parle de figures féminines absolument.
Ah bien sûr,
c'est indubitable là.
Je pense que c'est indéniable, exactement. Et moi, je trouve pas, vu qu'en fait, on a vraiment grandi avec Ommo Kalsoum, avec Marie-Jo, vraiment, nos parents sont toujours fans. Moi, j'ai pas ressenti ce côté de je suis un peu loin d'elle.
Ouais, ok.
Je me suis toujours sentie très proche de ces femmes-là. Okay. Et justement, vu qu'elles avaient une façon très éloignée toujours de l'Occident, de chanter et des textes absolument magnifiques, je sais pas, moi, c'est jamais quelque chose qui m'a posé problème. Mais après. Il y a une forme de, on va dire, de vulgairement de facilité avec la génération moderne, et je comprends. Quand je prends le métro, j'ai peut-être pas envie d'écouter un son entier d'Ommo Kalsoum qui va me prendre une heure, tu vois. T'as envie parfois de légèreté un peu, et j'ai l'impression que la légèreté, on l'a plus avec des figures comme Warda par exemple.
Moi, c'est je pense que Warda c'était une grande, grande diva qui m'a beaucoup plus touchée moi que Ommo Kalsoum quand j'étais jeune.
Ouais. Okay. On veut écouter un son d'elle. Ouais. Moi, j'ai sélectionné Haram Tahibbak parce que je le trouve vraiment exceptionnel.
Je crois que m'en regarder d'accord.
Ouais.
وحرمت أحبك أحبك ما تحب
d'écouter le hit de Warda Haram Tahibak. On parlait en fait justement du rapport de la comparaison aux divas classiques et divas modernes. Et on parlait aussi du côté très festif, puisqu'il y a une sorte de sacralisation quand même. C'est des femmes qui sont très mystifiées, ça se dit.
Wow.
Oui. Oui, des femmes très mystifiées, la génération classique. Et enfin, je trouvais que ce son de Warda et Warda tout court, c'était un peu se détachant un peu du côté très divin et imposant, en fait, d'Ummu Kulthum. Je ne sais même pas si la comparaison est faisable. Bon. Enfin, bon. Mais je pense que bah, pour finir l'émission, on va en sorte de conclusion. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que chacune pour vous, à ce stade de votre vie, et vu, on va dire, je ne sais pas, l'état, comment dire, l'état sociologique, enfin, juste l'état du monde actuel et en France. Voilà, et l'état de la société en France. Est-ce que pour vous, ça vous semble important de partager ces artistes, de les mettre en avant, de continuer la transmission que donc nous on a principalement eu par notre famille ou par notre propre intérêt personnel mais qui est lié toujours à notre culture. Est-ce que ça vous semble important de, en fait, de partager ça entre nous mais aussi en dehors des espaces de communauté en fait?
Je vais commencer.
Ouais, vas-y.
Pour moi en fait il y a deux axes dans cette question. Le premier c'est en fait, le partage, mais dans le sens communauté, mais vraiment dans le bon sens. C'est, genre, c'est important pour moi, aujourd'hui, de qu'on se réapproprie le mot communauté.
Surtout vu la connotation qui est là maintenant.
Qui est en train de s'y accrocher, en fait. Donc, c'est très important pour moi, cet aspect-là. Et donc, il y a ce truc de partage. En fait, c'est ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Ouais. Genre, on en parle, ça nous plaît, ça nous intéresse, ça nous touche, et c'est génial. Et donc, il y a cet aspect-là qui est important. Et pour moi, il y a le deuxième aspect qui est plus une lutte, dans le sens où on voit que ça dérange. On voit que quand tu parles de choses qui ne sont pas entre guillemets françaises, même sans les guillemets en fait, des choses qui ne sont pas françaises, ça dérange en fait. Et je me dis que si ça dérange, c'est que c'est important d'en parler. Et cette lutte-là, pour moi, c'est la musique aujourd'hui, c'est un aspect de cette lutte. Elle n'est pas que politique, elle n'est pas que. C'est pas que de l'activisme au sens classique qu'on connaît. Il y a la musique qui va rentrer en compte, il y a le cinéma. Enfin, on voit aujourd'hui quand même que le cinéma arabe, on est en train j'ai l'impression en tout cas qu'on est en train de le redécouvrir et qu'on commence à en reparler correctement.
Ce qui est dingue par rapport au cinéma, et ça je l'ai étudié dans le cadre d'un cours de cinéma du Maghreb, c'est qu'en fait, je crois que c'était dans les années 80, j'ai pas envie de me tromper par rapport à la date, mais il y a un des plus grands festivals en fait de cinéma qui est à Carthage en Tunisie, et j'ai plus le nom exactement, et en fait justement c'est un lieu emblématique et un repère des cinémas non occidentaux. Et le fait, moi j'en ai entendu parler que dans le cadre de ce cours-là, tu vois, les festivals de ciné à Carthage ou qui sont juste pas en France et pas occidentaux, tu vois, ils sont pas mis en avant justement. Donc je trouve ça quand même dingue, quoi.
Et c'est pour ça que pour moi je parle de lutte en fait, c'est dans ce sens-là, dans le sens où il faut. On va pas l'imposer à qui que ce soit, évidemment. Mais faut qu'on le soit là, faut qu'on lutte pour cette représentation, faut qu'on montre qu'on a envie d'être là aussi et que c'est pas pour autant qu'on est moins français, en fait. On est là, il y a l'ambivalence est là et personne peut la nier. Et donc, moi, la musique, c'est vraiment dans cet aspect-là que je veux la transmettre.
Ouais. Et puis c'est un vrai outil, c'est une vraie arme, la musique et l'art en général.
L'art est politique.
Peux pas... évidemment, tu peux créer un art qui n'est pas politique, la question. Évidemment. Mais c'est que l'art a toujours été, et là on parle depuis l'Antiquité, un moyen de s'exprimer et un moyen de lutter, comme tu le dis très bien. Donc moi, je suis totalement d'accord. Moi, je pense qu'on ne nous a jamais laissé la place pour nous exprimer sur des thématiques comme celle-ci. Et on va prendre la place.
Oui, mais
c'est très simple.
Tant en France que dans le monde arabe.
Voilà, c'est ça. Parce que dans le monde arabe, on est quand même dans ce truc où nous, on est les Occidentaux, on est les enfants qui vivent en France et qui est une dynamique très compréhensible. Mais en fait, je pense que c'est à nous de nous trouver légitimes. Et une fois que tu as fait ce travail toi-même... c'est bon. Pour moi, c'est un truc hyper naturel. Et en même temps, ça m'embête le fait que qu'on soit obligé, en fait, de transmettre ça sous un truc de lutte, en fait. Le fait que ce soit pas, justement, normal.
Moi, malheureusement, c'est le contexte qui veut ça.
Moi, ça m'embête.
C'est horrible, hein.
Ah ouais, totalement.
Mais
et on continue pour... mais en fait, ça m'embête profondément le fait de devoir voir ça, en fait, comme un certain acte et tout. J'ai pas envie de lutter quand je parle d'artistes que j'adore et avec lesquels j'ai grandi, tu vois. Mais le fait est que c'est une forme.
C'est une forme, mais ce qui est intéressant, c'est que je rebondis sur ce que Marie-Jo a dit et ce que tu dis aussi, c'est que moi, c'est je vois le côté politique, mais c'est intrinsèquement politique. C'est-à-dire que j'ai pas commencé à parler de musique, à être véhémente là-dessus, à être là en mode, c'est une lutte, c'est un combat. Intrinsèquement, le fait que moi, dans l'espace public, en tant que femme d'origine maghrébine, d'origine arabe, en parle et crée un espace. Ce que tu fais là actuellement, Emile, avec, avec ça là, ce podcast, c'est, enfin non mais c'est vrai, c'est un espace où tu nous invites à parler, où on parle d'orientation, un espace qu'on prend, un espace public, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est là où je rejoins ce côté bah, de lutte et de revitaliser aussi nos communautés, parce que il y a un truc un peu de manière décomplexée, on peut en parler autant entre nous que pas entre nous, ouais, autant sur les réseaux avec des contenus numériques, avec des personnes qui nous ressemblent, qui eux aussi prennent la parole et qui nous donnent un peu de compagnie, tu vois, de compagnie. Et moi, ça c'est un truc qui, si moi je peux donner la représentation à une fille comme moi ou plus jeune que moi, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je pense qu'on a tout un peu ce truc là, ce regard là aussi dans nos vies. On a un truc un peu de bah, on sait ce que ça fait de pas être représenté, que ce soit, je sais pas moi, dans le cinéma, dans la musique, dans les industries créatives par exemple, et même autres, tu vois. On peut exercer encore plus loin dans le politique, dans n'importe, tu vois. Et avoir ce versant de nous, on peut se avoir la représentation, pardon, c'est ouf. Et même je trouve ça ouf. Voilà. Ouais.
Sarah, tu veux finir?
Ouais, moi je voulais grave parler de l'expo de l'année dernière, justement, ouais, à Lima, parce que là, du coup, on en a pas trop parlé. Ouais. Déjà, j'aimerais bien juste rapidement avoir vos retours. Parce
que j'ai trouvé génial.
Moi, personnellement, en fait, je suis juste littéralement restée 4 heures là-bas.
Pareil.
Et je faisais que pleurer. Enfin, vraiment,
mais c'était... Mais oui. Franchement, je me sentais grave bizarre parce que justement, j'étais hyper émue. Et à un moment, j'ai versé une petite larme quand j'ai vu les costumes et tout.
Et la place qu'on a donnée justement à ces femmes à ce moment-là, c'est ça en fait qui était le plus fort, je pense. Et du coup, bah oui, donc le rôle des espaces culturels, il est vraiment hyper important, il est central, parce qu'à cette expo, on a vu tout et rien, tu vois, n'importe quelle personne, n'importe quel profil qui s'y intéressait, enfin, c'est ça, c'est magique, quoi. Et donc, ouais, cette transmission-là à tout le monde, pas que enfin, dans notre diaspora, enfin, ouais, entre notre communauté, elle est super importante parce que c'est apprendre à nous connaître et donc, enfin, à se faire peut-être plus facilement accepter, tu vois. Régler peut-être, ça peut peut-être régler plusieurs problèmes de société, justement, que l'autre sache qui on est culturellement, tu vois.
Ça participe à notre image, quoi, aussi. Ouais. C'est pour ça que je parlais de lutte. C'était pas en mode fond, oui, très énervé. Voilà.
C'est ça,
juste
en fait.
C'est dans cette forme de lutte-là. On veut être représenté, on veut être là.
Dans la culture aussi, dans les musées, c'est hyper important. Hein.
Bien sûr.
Faut décoloniser les musées.
Je trouvais que c'était une bonne façon un peu de terminer la discussion et l'épisode, justement, ce truc de... Eh bah, on est là. Et s'il n'y a pas de médias qui nous donnent la place, et ben on va créer.
Mais c'est ça,
c'est simple, tu vois.
Franchement.
C'est...
Je veux juste terminer sur un tout petit truc. Mais moi, depuis tout à l'heure, je pense à Elisabeth, notre petite sœur qui a 8 ans. Et je tiens à dire que juste, on l'éduque bien.
Par rapport à la représentation, pour le coup, elle grandira pas avec toute la souffrance qui vient avec le fait de ne pas être représentée.
Bravo à vous.
Non, l'éducation, c'est important. Tout.
Oui, l'éducation.
Enfin bon, du coup la discussion est arrivée à sa fin. Merci aux personnes qui nous auront écoutées. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode et que vous irez jeter un coup d'œil aux superbes artistes qu'on a évoqués. Je suis ravie qu'on ait pu mettre ça en place, puisque comme on l'a bien dit, c'est une chose qui reste très rare. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé, donc Morgane, Sarah et Marie-Jo en tant qu'intervenantes, Hello toujours à la réal, Nox au montage et Radio Campus Paris pour tous les coups de main et simplement l'opportunité. J'espère vous retrouver le mois prochain afin de continuer l'exploration de cette scène musicale vibrante. Et on vous laisse avec...
Il faut choisir le morceau de fin. Alors, c'est très compliqué. On a Esmer de Carole Samaha.
Tu voulais Fayrouz ?
Il y a Top Top de Melissa Ravone.
Fayrouz, on s'en dérange
pas. Vas-y. Sarah veut Fayrouz.
Ok. Allez. Et je vous laisse avec une note très poétique avec Fayrouz Kifak Ent.
تذكر آخر سهرة سهرتها.